devait avoir la maturité à la fois personnelle et collective de voir qu'on est sollicité par une grande question de civilisation qui est en réalité très intéressante, très féconde, qui devrait, je vais dire des termes qui sont un peu triviaux, mais qui devrait nous exciter, ou en tout cas qui devrait nous inspirer. Vous voyez ? Bon, voilà, je m'arrête là, je m'enflamme un peu.
Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce double défi ?
Alors, donc je vais répondre en une phrase, bien entendu, hein, puisque la question est très facile. Par définition, la réponse n'est pas, ne peut pas être personnelle. La place du philosophe, s'il en a une, hein, je vais vous citer une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase de Merleau-Ponty, dans l'éloge de la philosophie, c'est un petit livre formidable. Il parle de Socrate, et il dit des choses de très juste sur la fonction du philosophe dans la cité. Alors je vous cite la phrase, Maurice Merleau-Ponty dit « La vie et la mort de Socrate ». Vous savez, Socrate, que Athènes a condamné à boire la ciguë parce qu'il corrompait la jeunesse. C'est pas bien ça. Donc, la vie et la mort de Socrate sont l'histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient avec les dieux de la cité et avec l'absolu figé dont il lui tend l'image. Alors c'est ça le rôle du philosophe, je crois. C'est d'être un poil à gratter, un empêcheur de penser en rond par rapport à tous les absolus figés. Le philosophe, c'est celui qui voit des problèmes là où les autres voient des évidences. C'est celui qui voit des questions là où les autres voient des réponses, du prêt-à-penser ou des vérités toutes faites. Et donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, ce que j'ai fait devant vous, c'est très philosophique, j'ai essayé en tout cas, j'essaie de montrer la nature de la question qui nous sollicite aujourd'hui, plutôt que d'apporter des réponses. Après, vous pourrez dire que ça sera peut-être un petit peu facile que de se contenter de la question. Alors, ben, j'essaie d'apporter ma contribution, et en l'occurrence, l'année dernière, j'ai écrit ce petit livre, après les attentats de janvier, le plaidoyer pour la fraternité. J'ai le temps de te dire pourquoi par rapport à votre question. Alors, c'est très simple. Ah, c'est la question, on va faire deux en un. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier ? Bon, comme tout le monde, hein, j'ai été bouleversé, etc. Dans ma grande naïveté, quand j'y repense, après janvier, on s'est beaucoup mobilisés, tous, etc. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'on laisse passer cette année comme ça sans rien faire, et il faut qu'on prépare une grande mobilisation pour le janvier d'après, pour janvier 2016. Mais elle est là ma grande naïveté, c'est-à-dire que je me rends compte maintenant que j'avais fait comme si, eh bien, d'ici là, il ne se passerait rien d'autre. Vous voyez ? Et j'ai été, comme tout le monde, violemment percuté par ce qui s'est passé en novembre. Voilà. Mais violemment percuté comme nous tous. Hein. C'est-à-dire qu'on va se battre. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va pas se battre contre, on va se battre pour. Et on va avoir l'intelligence collective d'affirmer un certain nombre de valeurs, mais pas les affirmer comme si, par rapport à ce que je disais, elles étaient prêtes à l'emploi. Elles ont besoin aujourd'hui d'être revitalisées, elles ont besoin d'être réinventées, elles ont besoin d'être rediscutées, etc. Voilà la grande responsabilité devant laquelle on est convoqué. Bref. Toujours est-il que, comme beaucoup de monde en tout cas, le 11 janvier, je vais défiler, et puis là, je vois, comme tout le monde, ce silence à la fois magnifique et assourdissant. C'est Jean Birnbaum, encore récemment, qui l'a dit comme ça. C'est-à-dire que, en même temps, c'était très digne, il y avait beaucoup de solennité dans ce silence, on portait tous quelque chose, une force intérieure qui s'est réveillée en ce moment-là, sur ce sens-là qu'on est... Le peuple français, c'est vraiment un peuple. C'est pas un peuple de sang, c'est un peuple de conviction. Et on est un grand peuple parce qu'on a une grande conscience politique. Et quand cette grande conscience politique, cette grande conscience humanise, cette grande conscience de ce qu'on est et de ce dont on est les héritiers, quand elle est touchée, elle se réveille. Et la plupart du temps, on se bat, c'est Astérix, quoi. C'est-à-dire, c'est tout le temps la mêlée générale, etc. Mais quand il faut, on sait se solidariser. Bref. Alors c'était beau. Mais en même temps, c'était assourdissant. C'est-à-dire, autour de quoi, ce jour-là, on s'est rassemblés ? Je suis Charlie ? Ça veut dire quoi, je suis Charlie ? Pardon, mais ça ne veut rien dire. Je suis Charlie. Ah si, ça veut dire je suis pour la liberté. Mais il faut l'expliciter alors. Oui. Et je me suis dit, mais laquelle de nos valeurs, aujourd'hui, peut nous servir? Un, parce qu'elle n'a jamais été utilisée, on n'a jamais osé s'en servir. On n'a jamais osé en faire une politique. On l'a laissée sur nos frontons. On en a fait un mot transcendantal, comme dirait les philosophes, une espèce d'horizon comme ça devant nous, la fraternité. Je parle de la fraternité. Régis Debray l'avait dit avant moi, la grande oubliée de la devise républicaine. Si on ne s'en sert pas maintenant, on ne s'en servira jamais. C'est-à-dire qu'on est dans une société où jamais les différences entre les gens ont été aussi importantes. Jamais aussi on a eu cette espèce de pathologie collective qui consiste à toujours insister sur ce qui nous différencie, sur ce qui nous divise, sur ce qui nous sépare, et jamais sur ce qui nous rassemble. C'est-à-dire, en l'occurrence, cette fraternité, c'est-à-dire, selon son sens premier, si vous voulez, cette appartenance commune au genre humain. C'est ça la fraternité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je veux être fraternel avec l'autre, alors même que ben, il ne parle pas ma langue, je ne comprends même pas ce qu'il raconte, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas en quoi il croit. C'est un humain. C'est un être humain. Comme moi. Et au nom de quoi je préférerais l'être humain dont je parle la langue et que je comprends? Lui, c'est un être humain. Il peut souffrir. Il peut penser. Il a droit à avoir sa propre vie. Il a droit à avoir sa propre histoire. Quoi de plus précieux aujourd'hui dans nos sociétés multiculturelles que de rappeler cela et d'en faire? Moi, j'avais dit ça, quelques journalistes parisiens plus intelligents que moi ont ricané. J'avais proposé de faire un ministère de la fraternité. Quel philosophe, celui-là. Moi, j'ai dit cette chose simple. Il y a quelques années, on n'a pas eu honte de faire un ministère de l'identité et de l'immigration. Donc, si on est capable du pire, on peut peut-être être capable du meilleur. C'est aussi simple que ça. Au lieu de continuer à désigner les uns et les autres comme les boucs émissaires responsables de toutes nos crises, on pourrait peut-être choisir quelque chose qui nous rassemble et qui peut être aisément converti en politique publique. J'ai écrit un article dans Le Monde à la suite de mon cas là-dessus, c'est-à-dire la fraternité. Vous faites un ministère de la fraternité. Alors évidemment, si c'est une belle annonce politique comme on en connaît, ça ne servira à rien du tout. Mais toutes les luttes contre les inégalités, toutes les luttes pour la mixité sociale, toutes les luttes pour le lien interculturel, toutes les luttes pour l'égalité des chances, toutes les luttes contre les discriminations, toutes les luttes contre les racismes, l'antisémitisme, etc., etc. Tout cela, on peut le regrouper sous cette bannière extraordinaire, extrêmement puissante de la fraternité, qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, nous permettrait de lutter pour, au lieu d'être toujours en train de lutter contre. On va lutter contre l'intolérance, on va lutter contre le racisme. C'est bien de lutter contre, c'est l'urgence. Mais si on n'a pas quelque chose qui crée du désir collectif, quelque chose qui nous fait envie collectivement, qui est beau, qui est noble, qui est grand, nous les êtres humains, on s'ennuie. Vous voyez? Bon. Et deuxième immense avantage de la notion de fraternité, j'ai essayé de le montrer, c'est que moi je suis de culture musulmane, sur le plan spirituel. La fraternité, pour moi, c'est pas du chinois. Pardon pour les chinois. Mais... la fraternité, dans ma culture musulmane, ça veut dire quelque chose. À chaque fois que vous allez du côté d'une culture, du côté d'une civilisation, que ce soit la civilisation occidentale, la civilisation islamique, la civilisation hindoue, la civilisation chinoise, justement, vous trouvez partout ce que nos spécialistes de philosophie éthique, de philosophie morale, appellent la règle d'or humaniste, dont la formulation la plus simple est « ne fais pas à autrui le mal ». Tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et fais à autrui le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Bon. Donc, ce qui m'a semblé absolument extraordinaire dans cette notion de fraternité, c'est qu'elle parle dans toutes les langues humanistes de la Terre, y compris la culture juive. Ben oui, ben, je vois pas pourquoi ça ferait exception. Non mais, ce sont des évidences qu'on ne sait pas. Tapez règle d'or sur Internet, vous allez voir. Dans tout un ensemble de manuels d'éthique, c'est un lieu commun. Est-ce que nous le transmettons dans nos éducations? Dans nos éducations familiales, nos éducations scolaires? Est-ce que nous faisons grandir nos enfants avec? Est-ce que nous nous dirigeons vers l'autre avec la conscience qu'il y a dans sa culture? Et est-ce que chacun a la conscience que dans sa culture, il y a ce commandement universel de la fraternité? Donc là... Alors sans vouloir encore une fois, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, apporter des réponses qui seraient des réponses toutes faites, mais je me souviens toujours d'une leçon qui était une leçon d'un des derniers très grands philosophes français. Le problème avec les grands philosophes, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous morts. Mais, Oh, ça, s'il vous plaît, madame. Et, elle me dit encore Cyril Hanouna. Bon. C'était une blague de Georges Bernard Shaw qui disait le théâtre se porte vraiment mal. Shakespeare est mort, Molière est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien. Toujours est-il que, donc sans vouloir apporter de réponse, Ricoeur, c'était Paul Ricoeur auquel je pensais. Paul Ricoeur, le grand philosophe français, a écrit un livre qui s'appelle Soi-même comme un autre, qui est publié en 1990. Et à la fin de Soi-même comme un autre, enfin, je dis la fin, c'est dans les dernières dizaines de pages, il dit nous sommes au temps où les représentants de toutes les grandes cultures doivent se réunir autour du plus grand nombre de tables possibles pour chercher, parmi leur héritage de valeurs, lesquelles peuvent être candidates à l'universalité. Il ne dit pas il y a des valeurs qui sont universelles et voilà, je les pose sur la table. Il dit on va examiner ensemble, chacun à partir de sa contribution, chacun à partir de la contribution de son héritage, quelles valeurs seraient de bonnes candidates à l'universalité. Ben moi, j'ai simplement voulu apporter ma contribution en disant, voilà, moi, je pose la fraternité sur la table. Alors, je pose la fraternité sur la table en montrant, je cite le Coran, par exemple, que la fraternité, c'est quelque chose qui existe dans l'héritage coranique. C'est quelque chose qui existe dans notre héritage occidental, aussi bien du côté religieux, du côté profane. Je cite souvent Victor Hugo à cet égard. Voyez. Donc, est-ce que, de façon très simple, on ne pourrait pas, et c'est ce que font aujourd'hui... ceux qui retissent du lien social et du lien culturel dont je parlais tout à l'heure, moi je les appelle les tisserands. Je dis aujourd'hui, il y a des nouvelles générations de tisserands qui arrivent. C'est des gens qui retricotent, qui retissent, qui retendent. Hein. Est-ce que parmi ces tisserands, un certain nombre d'engagés ne pourraient pas mettre la fraternité sur la table? C'est-à-dire dans tous les espaces où, que nous ouvrons les uns les autres, à toutes les échelles, pour dialoguer entre nous, pour arriver à nous comprendre, nous ne pourrions pas nous servir de ce très beau mot comme un premier élément d'espéranto, si vous voulez. Un espéranto qui serait un espéranto à la fois civique, un espéranto éthique, un espéranto spirituel. Parce que la fraternité vaut sur tous ces plans. C'est quelque chose qui améliore la relation entre les citoyens, qui améliore la relation entre les personnes, et puis qui améliore, qui nous fait grandir en humanité. C'est en ce sens-là que cette notion a quelque chose de spirituel.